plus.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Merci de nous suivre, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et pour l'heure, c'est le journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Puisqu'il est 19h.
La Finlande et la Suède aux portes de l'OTAN. Les deux pays, sous la pression de l'invasion en Ukraine, se rapprochent de l'Alliance Atlantique. Une candidature historique qui met un terme à la neutralité militaire d'Helsinki.
Jean Castex vit ses dernières heures à Matignon. Qui lui succédera? On devrait le savoir dans les jours qui viennent. Mais en attendant, les rumeurs vont sur l'idée d'une femme au poste de Premier ministre.
Depuis 2 ans, il couvrait nos visages dans les transports pour éviter une propagation du Covid-19. À compter de demain, le port du masque n'est plus obligatoire dans le bus, métro, train et avion. Pas sûr pour autant que tout le monde le retire.
Qui sera sacré meilleur joueur de l'année? Réponse ce soir lors de ce qu'on pourrait appeler les Césars du foot. Si le résultat ne semble pas être un suspense, la soirée promet d'être belle. Nous irons faire un tour au pavillon Gabriel à Paris. Dans ce journal, la tendance météo, Valérie Darmon.
Des orages localisés dans l'Est demain, ponctuellement forts. Retour d'un temps plus calme par l'Ouest et toujours de la chaleur. En attendant, jusqu'à 22h ce soir, ça tonne sur les pays de la Loire jusqu'en Manche.
Merci Valérie. Météo complète en fin de journal. C'est la conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. La Suède et la Finlande font un pas de plus pour adhérer à l'OTAN.
Stockholm donne ce soir son feu vert à une candidature, ce qui ouvre la voie à une demande d'adhésion par le gouvernement suédois. La Suède dans les traces de la Finlande qui partage 1300 km de frontières avec la Russie, mais également un passé difficile. Helsinki a formellement annoncé aujourd'hui sa volonté de rejoindre l'Alliance Atlantique. Bonsoir Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Helsinki.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.
Cette annonce officielle vient mettre fin à 75 ans de neutralité avec la Finlande.
Oui, c'est un jour historique, a martelé le tandem exécutif, le président Sauli Niinisto et la première ministre Sanna Marin, dans une salle du palais présidentiel sur les quais de la capitale. Le pays de 5 millions d'habitants souhaite, je cite, « maximiser sa sécurité ».
Savoir que votre pays est en sécurité pour y vivre, y construire, y travailler, cela a un impact sur tous vos comportements.
J'ai confiance en le fait que le Parlement débattra de cette décision historique avec détermination et responsabilité.
Le Parlement examinera demain la candidature avant un vote. Les 200 élus y sont quasiment unanimes sur une adhésion. Depuis l'invasion de l'Ukraine, le revirement de l'opinion publique est ici spectaculaire. Près de 80% des Finlandais souhaitent se protéger du géant russe, comme Sixten, croisé sur le marché d'Helsinki face au palais.
Avant ça, je pensais qu'on pouvait s'arranger avec les Russes. J'ai changé d'avis le 24 février. Ils vont certainement réagir. Il pourrait y avoir des cyberattaques. Ils ont déjà coupé la livraison d'électricité, mais ça n'a pas de conséquences ici.
Le patron de l'OTAN souhaite accélérer le processus d'adhésion qui peut prendre plusieurs mois. En attendant, il se dit prêt à renforcer la présence de l'alliance militaire dans le pays.
Caroline Baudry en direct d'Helsinki pour Europe 1. Et les États-Unis, par la voix du chef de la diplomatie Anthony Blinken, ont indiqué soutenir fortement les adhésions de la Finlande et de la Suède. La Russie, elle, qualifie cette décision d'erreur et menace de représailles technico-militaires.
En France, l'actualité, c'est la nomination du nouveau gouvernement qui est attendue à partir de demain.
Oui, ce n'est plus qu'une question d'heure. Jean Castex s'apprête à présenter sa démission à Emmanuel Macron. Alors, qui pour lui succéder à Matignon? Les spéculations vont bon train et elles sont largement alimentées par l'idée d'une femme Premier ministre, Arthur Delaborde.
Oui, et la patronne de la métropole de Reims, Catherine Vautrin, semble désormais favorite. Certains vantent l'expérience et la maîtrise du Parlement de cette ancienne députée Les Républicains et ex-ministre de Jacques Chirac. Toutefois, son profil est aussi critiqué par certains cadres de la Macronie. Il lui reproche son absence de sensibilité écologique et son opposition au mariage pour tous en 2013. Ainsi, d'autres noms continuent de circuler, à commencer par celui d'Elisabeth Borne. La ministre du Travail est pressentie à Matignon depuis déjà plusieurs mois. D'autres paris sur la sénatrice UDI du Nord, Valérie Létard, cette élue locale centriste, fut notamment responsable des négociations sur le climat dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et puis il y a aussi des profils plus marqués à gauche, comme Marisol Touraine, qui a occupé le poste de ministre de la Santé sous François Hollande, ou Audrey Azoulay, l'actuelle directrice générale de l'UNESCO, fut en charge de la culture pendant le quinquennat du président socialiste.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Prendre les transports, le visage à l'air libre, ça sera possible dès demain.
Le port du masque ne sera plus obligatoire dans le bus, le métro, le train et l'avion. On devrait donc voir plus de visages dans les transports, Guillaume Dominguez.
Eh bien non, justement, beaucoup sont très frileux à l'idée de ne plus porter de masque du tout dans les transports. Écoutez.
Moi, je vais continuer à le porter encore quelques temps pour juste me protéger un tout petit peu.
Moi, je préfère porter le masque dans les transports. Ouais.
Moi, j'ai un petit peu la frousse, alors du coup, je vais continuer à le porter pendant un certain temps.
Je continuerai à porter le masque quand c'est les heures de pointe où il y a toujours un doute, quoi.
Un doute qui se traduit toujours par plus de 36 000 cas positifs par jour. Alors c'est un chiffre à relativiser, il est en baisse continue depuis maintenant plus d'un mois. Et en France, près de 80% de la population est totalement vaccinée. Pour les médecins d'ailleurs, la mesure est plutôt cohérente, mais elle est soumise à conditions. Écoutez l'avis de l'infectiologue Antoine Flao.
Elle est cohérente, mais si jamais ça remonte, et ça peut remonter rapidement malheureusement, comme on le voit au Portugal, mais aussi dans d'autres endroits, aux États-Unis aussi, il faut à ce moment-là être prêt à malheureusement réinstaurer ce type de mesure.
On risque donc d'attendre encore un peu avant de voir des sourires à nouveau dans les transports.
Guillaume Dominguez, notez que le port du masque reste obligatoire en revanche dans les hôpitaux et les EHPAD.
Aux États-Unis, le choc et la colère dans la ville de Buffalo après une tuerie raciste hier soir.
Une fusillade décrite comme un acte de terrorisme intérieur par les autorités américaines. Un suprémaciste blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché dans l'État de New York. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont une majorité d'Afro-Américains. C'est la tuerie la plus meurtrière de l'année outre-Atlantique. Nicolas Pineau, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. 24 heures après le drame, c'est toujours l'émotion dans le pays.
Oui, le tireur avait minutieusement préparé son attaque. Lourdement armé et équipé de protections similaires à celles des forces spéciales, il commence à tirer dès son arrivée en voiture sur le parking de ce supermarché fréquenté majoritairement par des Noirs. Sur la vidéo de son crime qu'il a postée en direct sur Twitch, l'assaillant abat méthodiquement ses victimes avant de recharger son arme. Une efficacité diabolique pour des exécutions de type militaire, selon Kelly Hochul, la gouverneure de l'État de New York.
C'est une exécution de type militaire contre des gens qui voulaient simplement faire leurs courses dans leur quartier. Ça nous touche dans nos cœurs de savoir qu'un tel mal existe.
Peyton Gendron, 18 ans, a été arrêté. Il a été inculpé pour meurtre, mais plaide non coupable. Le FBI a ouvert une enquête pour crime raciste. Dans un manifeste de 180 pages posté sur Internet, le tueur justifie son acte par le déclin de la population blanche. Il fait référence à la théorie du grand remplacement et se décrit comme fasciste, suprémaciste blanc et antisémite.
Nicolas Pineau, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les habitants de Buffalo ont rendu hommage aux victimes aujourd'hui et ce soir, le président américain Joe Biden affirme que la haine demeure une tache sur l'âme de l'Amérique.
C'est un événement d'importance qui a eu lieu aujourd'hui au Vatican. Le pape François a canonisé 10 figures de l'Église.
Et parmi eux, 3 religieux français, dont l'ermite du désert Charles de Foucault, à qui 2 miracles ont été attribués. Il avait été béatifié en 2005 par Benoît XVI. Alors, qui était cet explorateur à la destinée inattendue? Son portrait avec Céline Géraud.
Charles de Foucault voit le jour en 1858 à Strasbourg. Orphelin à 5 ans, le jeune vicomte est élevé par son grand-père et à l'adolescence, il est agnostique, frivole, indiscipliné. Il s'engage alors dans l'armée, sans conviction. Et après avoir dilapidé l'héritage familial, en fête raffinée et libertine, il démissionne et part explorer le Maroc. Ce voyage va le transformer. À son retour, le dandy provocateur devient ascète et se convertit. Tout juste ordonné prêtre, il décide de partir s'installer à Tamanrasset, au cœur du Sahara algérien. Commence alors sa troisième vie, celle de missionnaire auprès du peuple Touareg. Pendant 11 ans, il tente de fonder une fraternité, mais il ne convertit personne. Il n'est que le marabout chrétien, féru de poésie et de spiritualité. Sa fin est tragique. Le 1er décembre 1916, pris dans une émeute entre tribus, il est assassiné à 58 ans. Ce n'est qu'après sa mort que Charles de Foucault devient une référence et en 1933, la première communauté monastique qui l'a inspiré voit enfin le jour au Sahara.
Céline Géraud.
Et nous reviendrons sur cette canonisation de Charles de Foucault avec mon invité, l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, qui justement est à Rome juste après ce journal. On regarde dans le ciel à présent, où nous attend un très beau spectacle la nuit prochaine.
Oui Pierre, c'est une lune rouge, c'est le résultat d'une éclipse lunaire qui devrait durer quelques heures et qui sera visible partout en France à condition de se lever tôt. Ce sera entre 4h30 et 5h30 du matin. Olivier Lasvergna, c'est le président de l'Association française d'astronomie. Il nous donne ses conseils pour profiter au maximum du spectacle.
L'éclipse de lune, elle se produit quand la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire qu'en fait, son ombre se projette sur la Lune, quoi. Quand elle est complètement dans le noir, elle est encore un peu éclairée par la lumière du Soleil qui est diffusée par l'atmosphère terrestre et ça donne une faible lumière très très rouge mais qui est très très belle à voir. Ce qu'il y a de bien, c'est de s'installer confortablement parce que c'est un phénomène qui est dans la durée, hein, et le phénomène s'observe, ça prend la progression de l'ombre, ça prend à peu près une heure. Il faut se mettre dans un endroit où on est très très dégagé vers le sud-ouest. Hein. On peut même l'observer avec des petites jumelles, si on a des jumelles, voire même évidemment hein, une petite lunette. Et même c'est très très beau à l'œil nu, ça peut se photographier très facilement.
Olivier Lasvergnas avec Nina Droff pour Europe 1.
Et on passe au sport.
Tous les sports est sur Europe 1.
Et ce sont ce soir ce qu'on pourrait appeler les Césars du football.
Oui, les célèbres trophées UNFP qui récompensent tous les ans les acteurs du milieu du football. La cérémonie débute à 21h au pavillon Gabriel à Paris. On retrouve tout de suite sur place Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
La cérémonie est dans moins de 2 heures et il n'y a pas vraiment de suspense quant au choix du meilleur joueur.
Oh, il n'y a pas de suspense puisque autour du tapis rouge, eh bien, il y a beaucoup de supporters qui attendent une voiture arrivée, alors on ne sait pas encore à quelle heure, une voiture dans laquelle se trouve Kylian Mbappé parce qu'il a annoncé qu'il n'irait pas en stage au Qatar avec le Paris Saint-Germain. Il tient à être ici ce soir, il fait partie des nominés. Et vu sa saison, une saison incroyable où il est pour le moment meilleur buteur et meilleur passeur, s'il termine meilleur buteur et meilleur passeur, ce serait une première dans l'histoire de la Ligue 1. Mais on ne voit pas comment ce trophée pourra lui échapper. D'ailleurs, il l'avait remporté la saison dernière et devrait le remporter ce soir, un peu avant 23h, une cérémonie que nous allons suivre en direct sur Europe 1 dans l'émission de Lionel Rosso. Et on attend évidemment les premiers mots de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va enfin se prononcer sur son avenir et dire s'il va partir du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il va rejoindre le Real Madrid? Eh bien, vous le saurez en écoutant Europe 1 Sport. Il y aura aussi d'autres trophées qui seront décernés, notamment le trophée de meilleur joueur à l'étranger. Et là aussi, je peux vous dire que, sauf surprise, ce sera sans doute Karim Benzema.
Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci Cyril de la Morinerie au pavillon Gabriel.
Voilà, on n'a plus le choix que de vous écouter, hein, Lionel Rosso.
Absolument, mais c'est une belle soirée. Il n'y aura pas que cela, même si Cyril sera très présent dans l'émission. Bonsoir, en effet, les trophées UNFP avec la très attendue déclaration de Kylian Mbappé, sans doute plus proche de 23h que de 20h, ça c'est une certitude. Et puis, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur, une belle cérémonie pour ces Oscars ou ces Césars du foot français. Mais nous évoquerons aussi l'actualité de la Ligue 1 après le multiplex d'hier des enseignements. C'était l'avant-dernière journée et on se demandera si Saint-Etienne peut encore se maintenir ou comment Bordeaux va faire pour rebondir après cette descente en Ligue 2. Car si mathématiquement ce n'est pas fait, les Girondins de Bordeaux doivent gagner par 12 buts d'écart lors de la dernière journée, la semaine prochaine. Donc c'est totalement impossible. Bordeaux ira en Ligue 2. On sera avec Alain Giresse, notamment bordelais symbolique et historique de ce club.
Voilà, une belle signature. Merci Lionel Rosso. Et à tout à l'heure. Il y avait 2 finales de tennis à Rome aujourd'hui.
Oui, Novak Djokovic confirme son retour en grande forme. Le Serbe est sacré au Masters 1000, donc à Rome. Il a battu le Grec Tsefanos Tsitsipas en 2-7, 6-0, 7-6. Et puis chez les dames, la Polonaise Iga Świątek s'inscrit dans son statut de favorite pour Roland Garros qui démarre la semaine prochaine. 5e tournoi consécutif remporté pour la numéro 1 mondiale qui a battu la Tunisienne 11 Jabeur 6-2, 6-2.
Merci Sophie Tussaud pour le journal de 19h. On passe à la météo et on scrute le ciel, Valérie Damont, parce que pour le moment, le ciel tonne toujours dans le nord-ouest.
Et oui, c'est très couvert, hein, jusque sur les Pays de la Loire, malheureusement. Alors absolument, les vigilances orange entre Normandie et Sarthe seront levées vers 22h. Si le ciel tonne sur la région parisienne, c'est à partir de maintenant. Et quelques orages éclatent aussi du sud-ouest aux frontières nord. Demain, la perturbation arrivée par l'ouest s'évacue par l'Allemagne et la Suisse. Elle apportera des averses et des orages dans l'est. Ailleurs, le soleil s'imposera de nouveau rapidement, notamment au sud de la Garonne. Après la dissipation des grisailles du matin, où vos thermomètres afficheront aux heures les plus chaudes 28 à 30, donc l'après-midi, et près de la Méditerranée où le temps reste calme, en dépit de quelques nuages bas en Languedoc-Roussillon. Du Massif central aux Alpes, à la Bourgogne, au Grand Est, là vous passez la journée sous un ciel lourd. lourd et orageux, c'est la perturbation qui finit de s'évacuer par les frontières de l'Est. Et puis dans le Nord et l'Ouest, bien arrosé donc ce dimanche, c'est coup-ci coup-ça, entre nuages parfois menaçants et éclaircis, et le risque d'averse qui reste un tout petit peu plus marqué entre la Bretagne et la Normandie.
Merci Valérie Darmon, 19h15, direction le ciel de Rome. Dans un petit instant, on rejoint Monseigneur Bouget qui va nous parler de ce Charles de Foucault, méconnu peut-être pour vous. Vous saurez tout dans un instant, tout de suite.